Évadez-vous en suivant Sur le pont des Arts avec la compagnie Corsaire et ses vols vers Paris, l'Afrique et l'océan Indien.
Sur le pont des Arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. Il n'a cessé dans ses romans d'explorer l'histoire, celle qui a suivi les indépendances et celle qui l'a précédée. L'histoire à hauteur d'homme, comme Adiba, ce résistant guinéen de la Seconde Guerre mondiale qui lui a inspiré le terroriste noir. Aimé Olivier de Sanderval, l'aventurier français fasciné par le foot à Jalon, au cœur du roman Le Roi de Kael, prix Renaudot 2008. Dioulde, le héros des Crapauds Brousse, sa première œuvre, ou plus récemment, en 2022, Saharienne Indigo qui croise le destin de deux femmes, Véronique Bangoura et Madame Corr, toutes deux victimes des atrocités commises au camp Boiro sous la dictature de Sékou Touré. Il y a un an, le vol de son manuscrit chez lui à Conakry a privé ses lecteurs, pour l'instant en tout cas, de son futur roman. Thierno Monenembo est avec nous sur le pont des Arts. Bonjour Thierno Monenembo.
Bonjour.
Bienvenue dans les studios de RFI. On est très heureux de vous accueillir dans cette émission, de prendre le temps avec vous d'évoquer votre œuvre et cette perte, la perte d'un manuscrit. Vous disiez l'an dernier, cela équivaut à perdre son rein gauche ou son poumon droit. C'est une mutilation dont on ne guérit pas. 3 ans de travail, c'est vrai, volatilisé en quelques secondes après ce vol, alors que le roman devait être transmis à votre éditeur, Le Seuil, à Paris. Un an plus tard, avez-vous surmonté ce terrible traumatisme ou au moins commencé à le faire?
Je commence à le faire. J'ai même recommencé le livre. Je crois que j'en suis maintenant à la 100e page. Cela avance, mais il y a pendant 6 mois, je ne pouvais même pas lever le petit doigt. Vraiment, j'étais complètement à terre. Je ne souhaite à personne de perdre un manuscrit. Il veut perdre un œil ou un rein, effectivement.
Donc vous vous êtes remis à la tâche, oui. À l'écriture. Vous aviez lancé un SOS pour le retrouver, ce manuscrit. Un collectif de jeunes Guinéens s'est d'ailleurs mobilisé pour vous venir en aide. Cette solidarité-là, au moins, vous a fait plaisir à ce moment-là?
Beaucoup. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je n'étais pas seul en Guinée. Je n'ai pas que des amis en Guinée. Je pense qu'au sommet de l'État, j'ai même beaucoup d'ennemis. Mais au niveau de la société guinéenne, j'ai beaucoup de frères et beaucoup d'amis. Ça, je l'ai ressenti profondément. Après la perte de mon manuscrit, tout le monde était solidaire avec moi.
On va évoquer évidemment votre œuvre et cette situation en Guinée, puisque vous n'avez aussi dans vos fictions jamais cessé de parler de politique, Thierno Monenembo. Pour notre café polar du jour, en votre présence, il fallait une star du roman noir. Et Catherine Fruchon-Toussaint l'a trouvée, évidemment. Bonjour Catherine.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez en effet interviewé Franck Tilliez à l'occasion de la sortie de son nouveau roman.
Oui, l'auteur français qui a vendu 11 millions de livres depuis ses débuts et qui est traduit dans le monde entier. Il vient de publié à retardement aux éditions Fleuve, où cette fois, Franck Tilliez nous emmène dans le milieu très fermé des unités pour malades difficiles. En d'autres termes, là où sont sous haute surveillance des patients qui sont passés à l'acte et qui sont internés, comme vous allez le découvrir tout à l'heure, dans des hôpitaux psychiatriques très particuliers.
Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou.
À tout à l'heure, Catherine, pour le Café Polar.
RFI, sur le pont des Arts.
Thierno Monenembo, ce qui vous est arrivé l'an dernier, vous l'avez vous-même écrit tout de suite après, c'est arrivé à d'autres grands auteurs. Proust, qui a perdu une partie du manuscrit de La Recherche, Sandrard, Hemingway, ou même à votre compatriote William Sassine. C'est un autre livre que vous avez entrepris depuis ces 100 pages que vous avez réécrites. Elles ressemblent à l'original. Que reste-t-il du projet initial?
Je pense que c'est impossible d'écrire deux fois le même roman. Il suffit de changer la place d'une virgule pour que tout le roman change. On dit qu'on ne se baigne pas deux fois dans la même rivière. Eh bien, on n'écrit pas deux fois le même roman. C'est impossible. Je suis obligé donc d'écrire un autre roman assez proche de celui que j'ai envisagé au début, mais ce sera évidemment un autre monde.
Mmh. Parce qu'on doit être pollué dans cet exercice-là par la recherche de ce qu'on avait écrit auparavant. C'est ça, en fait,
oui,
la difficulté.
Ça ne revient pas toujours. La mémoire, elle trahit. Toujours, il faut un minimum de choses écrites pour pouvoir recommencer, ça, je ne l'ai pas. Il faut tout recommencer et ce n'est pas facile.
Vous avez donc recommencé ce roman à zéro. Quel est son sujet? Qu'aviez-vous prévu de nous raconter cette fois-ci? Parce qu'on n'en connaît qu'un titre assez énigmatique qu'on a appris à l'occasion du vol d'ailleurs. Enfance 4, entre parenthèses, enregistré. De quoi est-il question dans ce roman, Tiernomone Nembo?
Alors, ceci n'est pas le titre du roman, c'est le nom du chapitre.
C'est
le nom du dossier. C'est comme les Anglais disent, le file. Hein, c'est
le dossier qui était sur votre bureau d'ordinateur
exactement.
Qui vous a été dérobé.
Oui, le titre, je n'ai pas le donné ici, j'attends que le roman sorte.
D'accord.
Mais ça parle de mon enfance.
Vous parlez de vous, donc.
De moi, de mon enfance, qui est une enfance charnière. J'avais 11 ans au moment de l'indépendance guinéenne. Beaucoup de choses se sont passées. Dans mon enfance, l'Afrique nouvelle naissait en même temps que je grandissais. J'ai un souvenir assez précis de tout cela. C'est un peu tout cela que je raconte dans ce roman.
Vous avez le souvenir du moment de l'indépendance, Tiernomone Nembo?
Très clairement, l'indépendance guinéenne dans ma tête, comme les images sont dans le livre d'un enfant. J'ai un souvenir précis de cette indépendance, très précis. On ne me la raconte pas, cette indépendance-là, elle est dans ma tête.
Donc vous allez raconter l'histoire dans vos yeux d'enfant et votre enfance aussi
mon enfance,
famille,
aussi,
j'imagine.
Absolument, ma famille qui est assez bizarre. Oui, je suis né de personnes qui, je ne dirais pas qui étaient ennemies, mais qui étaient en conflit longtemps. Et c'est pour les réconcilier qu'on a offert mon père à ma mère. Vous voyez, donc ça commence là.
C'était une récompense.
Je n'en dirai pas plus.
Ah oui, là, on en a déjà dit pas mal. Ouais. En tout cas, vous allez parler de vous, Tiernomone Nembo, alors que, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que dans toute votre carrière de romancier, vous n'avez rien tant aimé qu'explorer l'histoire à travers des personnages de fiction. Vous aimez rendre l'histoire sensible, humaine, à travers vos personnages?
Vous savez que l'écrivain, en tout cas le romancier, dans tous ses livres, il ne parle que de lui-même. Même quand il parle de l'Himalaya, en fait, il parle de lui-même. C'est Flaubert qui disait que Madame Bovary, c'est moi. Donc, tous mes personnages, c'est moi, finalement. Quelqu'un m'a fait remarquer que le petit Faustin du roman qui s'appelle « L'aîné des orphelins » me ressemblait beaucoup. Un de mes amis d'enfance m'a dit « ça te ressemble beaucoup ce jeune Rwandais ». On ne parle que de soi-même. Même quand on parle de Louis Sanderval ou de Adliba, il y a du moi là-dedans, forcément. D'autant que ces deux personnages-là, qui sont pour moi de vrais personnages de roman, mm-hmm. Olivier Sanderval et Adliba, avant d'entrer dans le roman, ce sont d'abord, avant d'entrer dans l'histoire, ce sont d'abord des personnages de roman. Ils ont leur caractère à eux, ils ont un destin assez original, assez particulier.
C'est-à-dire que vous voyez les personnages de roman dans l'histoire, c'est ça?
Absolument.
Votre vision d'écrivain.
Moi, je pense que les personnages historiques ne m'intéressent que quand ils ont un petit caractère romanesque. C'est cela qui est intéressant. Je pense qu'Olivier Sanderval, je n'en aurais pas parlé, ce n'était pas justement Olivier Sanderval. C'est-à-dire un personnage assez proche de romans de fiction. Comme Adliba d'ailleurs. Et les deux se croisent quelque part dans l'espace, en tout cas dans ma mémoire à moi, dans mon imaginaire. Et je les rencontre tous les deux, puisque je suis né dans une case, la case où je suis né, Olivier Sanderval y a dormi lorsqu'il est passé dans mon village en 1880. Vous voyez, ça commence là.
L'aventure d'Olivier de Sanderval, que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots, oui, Tiernomone Nembo, voilà. Qui est donc au cœur du roi de Kael.
Absolument. Olivier Sanderval, c'était un personnage assez fantastique, né dans une très grande famille d'industriels lyonnais. Ce sont eux qui ont créé les industries chimiques lyonnaises. Ce sont eux qui sont à l'origine de la fameuse entreprise qu'on a appelée Saint-Gobain. C'est son grand-père qui a inventé l'acier sulfurique industriel. Ils étaient un peu les biggest de leur époque en Europe. Toute l'Europe les appelait pour construire des usines d'acide sulfurique. Et lui, tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller en Afrique chez les Peuls et d'être le roi des Peuls. C'était un fantasme d'enfant. Et il a eu ça, à mon avis, en lisant les explorateurs de l'époque. René Caillé, Mungo Park, vous savez, les explorateurs de cette époque-là, c'était les héros le 19e siècle, ils avaient la même valeur que les cosmonautes d'aujourd'hui, ou encore mieux que ça, ou les footballeurs d'aujourd'hui. Quand vous faisiez l'exploration, vous étiez un héros. Toute l'Europe parlait de vous. Olivier Sanderbal, tous les journaux d'Europe ont parlé de lui, de son voyage au Fouta Diallon. L'Afrique était à découvrir, comme l'Asie d'ailleurs, et celui qui allait un peu à 200-300 km des côtes était considéré déjà comme un héros.
Donc il a eu un destin romanesque, mais vous dites, Tierno Monenembo, qu'en tant que romancier, vous ne parlez que de vous, vous aimez aussi beaucoup être une sorte de vigie pour la société, pour la communauté politique de votre pays, et au-delà peut-être même de la région, de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas, pardonnez-moi, que votre nombril qui vous intéresse.
Il n'y a pas que ça. On est dépendant de l'environnement social, on est tous déterminés par la comédie politique, la comédie de l'histoire aussi, et on ne peut pas s'en libérer complètement, quel que soit d'ailleurs l'aventure dans l'imaginaire que l'on puisse faire. Ceci dit, effectivement, le romancier l'aime, il est en même temps un vigile, il est en même temps celui qui tire la sonnette d'alarme, c'est celui qui dit attention.
C'est une conscience.
En tout cas, c'est quelqu'un qui essaie d'éveiller des consciences. C'est quelqu'un qui essaie de susciter la conscience collective. Quand elle existe, de la réanimer, de la rendre plus vivante.
Je le disais tout à l'heure en introduction, dans votre dernier roman paru en 2022, vous avez évoqué les horreurs, les atrocités commises au camp Boireau sous le régime de Sékou Touré. Si vous voulez bien, et peut-être pour ceux qui ne vous auraient jamais lu, Tierno Monenembo, ils ont tort, mais il y en a sans doute, je vais vous demander de nous lire un extrait de ce roman. C'est un passage qui illustre peut-être un peu, enfin vous allez nous le dire, votre conception de l'humanité.
Tout à fait, volontiers. Hitler, Staline, Sékou Touré, Franco, Pinochet et Pol Pot ne sont ni des chiens, ni des cochons, ni des hyènes, ni des poux, ni des ours blancs, ni des araignées. Ce sont des hommes, ce sont nos frères de sang, c'est vous et moi. Et qu'on ne me parle pas de contexte, l'époque, le climat, la couleur de peau et les mœurs n'y ont rien à voir. C'est comme ça depuis le début, là-bas, partout et nulle part. Nous sommes désarmants de sottises et de haine. Et quand le mal est fait, que le sang et les larmes débordent partout, nous nous répondons en prière et en sermon. Après les églises et les mosquées, nous voilà dans les rues. Pancarte brandie. Plus jamais ça. Le slogan, il est dans notre bouche. Notre esprit n'est pas dupe. 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, tout au plus, et le camp B aura fait des petits au Tibet, au Yucatan, Bechuanalang, Sobibor, les arrêts petits fous du Pérou, en Sibérie, au Botswana. Et de nouveau les prières et les sermons, de nouveau les hauts le cœur des âmes sensibles et les pancartes des indignés. Et personne ne songera à nous tendre le miroir. Tenez, ouvrez les yeux, quel diable, quel monstre, rien que vous et moi. Laissez le diable tranquille.
Merci pour cette lecture, Tierno Monenembo. Dans ce même roman, Saharienne Indigo, vous faites dire à l'un de vos personnages « Croyez-moi, il n'y aura jamais assez de bouquins et de films pour contenir les conneries des hommes. » Vous êtes dur avec vos semblables, Tierno Monenembo. On pourrait vous taxer de pessimisme quand vous dites effectivement que l'horreur engendre l'horreur et que c'est une sorte d'éternel recommencement chez les humains sur la Terre. Vous dites quoi ? Vous dites c'est juste de la lucidité ?
Exactement, le mot lucidité. Une fois, j'ai entendu Bernard Noël, le grand poète français, parler. Il a dit « Entre le pessimisme et l'optimisme, je préfère le pessimisme. » Parce que le pessimisme, lui, mène à la colère. Et c'est ça, la colère, elle est saine, la colère. Je n'aime pas la haine, mais j'adore la colère. On ne peut pas applaudir tout ce qui se passe sur cette terre, c'est impossible. On ne peut pas être d'accord avec tout ça. Il faut à un moment dire non. C'est dégoûtant. Il faut à un moment dire non, c'est trop.
Donc vous êtes un homme en colère ?
Oui, je suis un homme en colère.
Perpétuellement, vous la gardez, cette colère ?
Oh, parfois non, il faut de temps en temps rigoler, il faut de temps en temps faire la fête. Mais enfin, la colère est toujours là quand même, en arrière-plan au moins. Et elle ne peut pas ne pas être là. Je pense qu'on ne peut pas avoir, être intéressé par la conscience si on n'a pas le sens de la colère. C'est celle-là qui mène justement à la lucidité.
Votre plus grosse colère du moment, elle concerne votre pays ?
Oh, elle est partout aujourd'hui. Franchement, la Guinée, elle est là depuis toujours, bien évidemment. Mais ce qui se passe en Russie, en Ukraine, aux États-Unis, la bande de Gaza, etc., etc., ce n'est pas fait pour me réjouir, bien évidemment. Ce n'est fait pour réjouir personne, d'ailleurs.
Sur le pont des arts, avec Tierno Munenembo, on marque une pause en musique. Camayenne Sofa, le groupe héritier du sextet Camayenne qui comptait en son sein Papa Kouyaté, Jean-Baptiste Williams ou Justin Morel Junior, avec ce titre Khadija. Ça a fait partie de votre bande-son, Tierno Munenembo,
oui,
cette
sûr,
musique-là
la chanson est connue d'abord. En plus, je connais même quelques-uns des
membres de ce groupe.
Des membres de ce groupe. Je connais bien Justin Morel, je connais Jean-Baptiste Williams, bien sûr, et bien d'autres.
Et la musique a été...
Papa Kouyaté, on est de la même ville, on se connaît depuis l'enfance.
La musique, au même titre d'ailleurs que la littérature, a été, dans ces années-là, en tout cas, l'ambassadrice de la Guinée à l'étranger.
Absolument. À mon avis, c'est la musique et le football qui ont donné au monde... un visage présentable de la Guinée.
Le Sili National.
Voilà, le Sili National.
Et le football, les orchestres.
C'est le football et la musique qui nous ont aidés un peu à sauver l'honneur. tout était monstrueux en Guinée, sauf justement cela, la musique et le football. La Guinée avait d'extraordinaires, de belles équipes de football, Cheikh Souleymane, etc., etc., les Maxime, etc., Maxime Camara. Et la musique guinéenne est très, très belle. C'est une musique extraordinaire, magique. Malheureusement, souvent dédié au sang guinéen, c'est couturé, mais bon, c'est pas grave, on peut l'écouter en se bouchant le nez, en tendant l'oreille, mais en se bouchant le nez.
Il avait favorisé
l'émergence de la personnalité, bien sûr.
Il avait favorisé l'émergence des orchestres et il s'en est servi aussi.
Pour faire sa gloire personnelle, sa petite gloriole, bien évidemment. Mais c'est pas grave, la musique guinéenne est magique, c'est une très très belle musique.
Ouais, la culture utilisée dans le champ politique pour servir les intérêts d'un dirigeant, j'imagine que C'est quelque chose qui perdure toujours, aujourd'hui, d'après
toujours,
vous ?
Toujours, ça perdure, surtout en Guinée, mais ça a commencé déjà, à mon avis, par Moscou. Moscou a beaucoup utilisé ça. Tous les régimes autoritaires, d'ailleurs, ont utilisé la musique ou le théâtre ou l'opéra ou même le sport pour favoriser justement leur gloire personnelle. Et Wagner est là avec Hitler, tout le monde le sait, et etc. Donc, je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est général, quoi. C'est quelque chose d'usuel.
Le pouvoir qui est actuellement aux affaires en Guinée, quand il a mis fin à la présidence d'Alpha Condé, avait, Tierno Monenembo, un certain crédit auprès des Guinéens. Pour vous, en 4 ans, il l'a totalement perdu, ce crédit-là ?
Complètement. Ce crédit a duré peut-être 2 ou 3 mois. Je pense que même moi, j'étais plutôt favorable à ce coup d'État.
J'ai soulagé de voir partir le président qui se maintenir au pouvoir.
Qui faisait un coup d'État institutionnel, qui s'offrait un troisième mandat, alors que c'est illégal. Parce que nous, en Guinée, depuis l'indépendance, on a passé notre temps à violer la Constitution, à violer les règles établies. Ce sont nos chefs, nos présidents, qui sont les premiers à violer la loi depuis l'indépendance guinéenne. C'est bien pour cela que ça ne marche pas. Les sociétés ont besoin de minimum de règles de vie commune. En Guinée, il n'y en a pas. C'est le caprice du chef qui fait fonction de loi.
Qu'est-ce qui vous inquiète justement le plus dans cette dérive ? Vous disiez ce pouvoir n'a plus de crédit. C'est une forme de pouvoir peut-être plus personnifié qu'avant, qui glorifie un dirigeant. C'est la fermeture des médias privés, la condamnation des opposants, c'est tout cela à la fois ?
Les morts, les arrestations arbitraires, les disparitions. Tous les jours, vous avez quelqu'un qui disparaît en Guinée, etc. C'est-à-dire c'est le retour du régime de Sékou Touré, en fait.
Vous n'avez pas de mots assez durs, Tierno Monenembo, contre l'intelligentsia guinéenne. Vous disiez l'an dernier, à la mort de Nadine Barry, qui était une personnalité en Guinée, qui était née en France, mais qui avait épousé un intellectuel, la Guinée et un homme, Abdoulaye Djibril Barry, devenu ministre justement sous le régime de Sékou Touré, puis tombé en disgrâce, arrêté, exécuté. Vous disiez à sa mort, l'intelligentsia guinéenne est responsable à 90% des malheurs du pays.
Bien sûr. C'est la démission des intellectuels guinéens qui a fabriqué tous les monstres qui se sont succédés au pouvoir depuis l'indépendance.
Vous parlez de démission, mais ce qui s'est passé au Camboiro et que vous racontez dans Saharienne Indigo, cela aussi, ça a tué les élites du pays.
Mais malheureusement, les Guinéens, les intellectuels guinéens, ce sont eux qui fabriquent leurs propres bourreaux. Ce sont eux qui ont fabriqué Sékou Touré. Sékou Touré les a tués. Ce sont eux qui sont en train de fabriquer Mamadi Doumbia, et c'est Mamadi Doumbia qui les tuera. C'est comme une malédiction. Les intellectuels guinéens n'ont pas tiré la leçon de l'histoire guinéenne. Et c'est grave, c'est extrêmement grave. Tant pis pour eux.
Et comment vous expliquez cet aveuglement ? C'est de la peur, c'est de la frilosité ?
Les deux, la peur, la frilosité, l'opportunisme. Ou alors la paresse d'esprit. Je ne sais pas trop comment dire ça. Vous savez, partout ailleurs, les intellectuels assument, je dirais, le service minimum. Ce qui fait que les dérives ne sont jamais totales. À un moment donné, le pays s'arrête. Il ne tombe pas dans le gouffre, comme cela se fait en Guinée à chaque fois qu'on change de président. Il nous ramène au gouffre.
Mais vous diriez la même chose d'intellectuels européens, par exemple ? D'intellectuels français ?
Dans les moments décisifs, ils ont toujours quand même pris leurs responsabilités, à mon avis. Mais en ce moment, c'est plutôt la paresse d'esprit. Aujourd'hui, je pense que les intellectuels sont plutôt absents du débat politique français, ou alors très peu présents. Alors vraiment, mieux le débat, ce qu'ils apportent n'est pas convaincant. Mais historiquement, ils sont là, c'est évident. La France a toujours de très grands intellectuels qui ont joué un rôle fondamental dans l'évolution de la société française.
Et la Guinée, pour vous, n'est pas capable de produire ces intellectuels ?
Si, ça va venir. À mon avis, les nouvelles générations sont plus, justement, coléreuses que nous. Elles sont plus lucides que nous. Elles sont plus courageuses que nous. Je l'observe autour de moi. Les jeunes prendront leurs responsabilités, eux. J'en suis convaincu. J'ai un débat permanent avec eux. On parle. Je sais qu'ils arrivent.
Vous avez confiance dans la jeunesse de Guinée. Vous parlez des intellectuels, mais ce que vous critiquez, en fait, ce sont les élites dans leur ensemble. Hein. Vous dites qu'elles ont disparu du pays, les intellectuels dans le crétinisme, les militaires dans la lâcheté, les commerçants dans l'affairisme le plus vil, les prêtres et les marabouts dans le culte du pouvoir terrestre.
Absolument. Surtout nos prêtres et nos marabouts, c'est des gens qui craignent beaucoup plus le chef que le bon Dieu. C'est des gens qui prient, non pas pour aller au paradis, mais pour se remplir les poches. C'est un gros problème. Déjà, on n'a même pas de prêtres et de marabouts. Il n'y a même pas de valeur spirituelle dans ce pays-là. Les intellectuels, tout le monde sait ce que c'est. Nos militaires, la seule fois où un militaire guinéen a osé faire un coup d'État, c'est Mamadi Doumbouya. Il faut au moins lui reconnaître ça. Lui, au moins, il a fait un coup d'État. Les autres sont contentés de prendre le pouvoir après la mort du chef. Comme disait Yara Traoré, ils font des coups d'État contre des cadavres. C'est déjà un problème. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de militaire. Un militaire, c'est un homme de courage. Un militaire, c'est un homme qui n'a pas peur de la mort. Or, en Guinée, ceux qui ont le plus peur de la mort, ce sont les militaires.
Ce pays, Thierno Monenembo, la Guinée, vous l'avez quitté à la fin des années 60, hein, si je ne me trompe pas, pour fuir justement la dictature de Sékou Touré. Qu'est-ce qui vous y retient aujourd'hui? Et est-ce que vous avez pensé dans un passé récent à nouveau à partir?
Non, je ne repartirai plus jamais de mon pays, quelles soient les raisons. Sauf, bon, là je suis en France depuis une semaine, je repars dans quelques jours, et je sortirai pour des raisons médicales, pour faire des conférences, mais c'est en Guinée que je vivrai dorénavant, c'est en Guinée que je mourrai. Mon retour est dû à un manque, le manque du pays. Le pays me manquait terriblement. J'ai fait 40 ans en exil, et la Guinée me manque. Je suis revenu parce que j'ai un amour fou pour ce pays.
Qu'est-ce qui vous manquait pendant ces 40 années loin?
Le pays, les odeurs, les couleurs, les montagnes, la mer, les fleuves, la forêt, les gens, les Guinéens. Moi, j'adore les Guinéens. Ils m'énervent souvent, mais je les adore. Ils sont très énervants. Parfois, j'ai envie de les gifler, tous tant qu'ils sont, mais je les adore. Et j'adore ce pays, je me sens très bien en Guinée, malgré les moustiques.
Vous y restez et vous y resterez, c'est ce que vous nous dites.
Absolument.
Yeah. Voilà les échos de la musique guinéenne d'aujourd'hui avec Abdoulaye Kouyaté, guitariste, virtuose, chanteur. Il a accompagné de très nombreux artistes. On l'avait reçu d'ailleurs dans cette émission avec Laura Prince notamment. Mais il trace aussi son parcours en solo avec cet album Fefani qui est en tournée pour les prochains mois. Tierno Monenembo avec nous sur le Pont des Arts aujourd'hui. Après toutes ces années, Tierno Monenembo, après le succès que vous avez rencontré, la reconnaissance du monde des lettres bien au-delà des frontières de la Guinée, l'envie d'écrire, pour vous, elle est intacte ?
Intacte.
C'est la même qu'au début ?
J'écrirai jusqu'à la mort. Personne ne m'empêchera de continuer à écrire. Ça, c'est, l'écriture est devenue ma vie. Je pense que c'est la, ma principale raison d'être, c'est celle-là. Évidemment, mon enfant, mon petit-fils aussi, et bien d'autres choses. Il y a des êtres humains auxquels je me sens fortement attaché sur cette terre, bien évidemment. Mais l'écriture aussi, c'est vraiment... Ça compense tellement de choses. Vous savez, la réalité est maigre, la réalité est insuffisante. Ça, l'imagination. On ne peut pas complètement accepter la vie telle qu'elle est. Je pense que c'est l'imaginaire qui a permis à l'homme justement de supporter l'absurde de l'existence.
Vous diriez que vous vous réfugiez dans l'écriture ?
Oui.
Il y a un peu de ça ?
Oui. Je ne me réfugie même pas, je vis dedans. C'est là la vie, en fait. c'est dans la fiction.
Le reste n'est pas la vie.
C'est la fiction qui est la vraie réalité. C'est la fiction qui est la vraie vie. C'est quand c'est beau que c'est vraiment vivant. Et la fiction, c'est la recherche de la beauté.
Ouais.
Le monde est laid, la réalité est laide, elle est lourde, elle est difficile à supporter. Le roman, c'est beau.
Et quel genre d'écrivain êtes-vous ? Est-ce que vous êtes de ceux qui, 100 fois, reviennent sur le texte, raturent ou effacent sur l'ordinateur ? Ou ceux chez qui le texte arrive directement de la tête au clavier ou à la plume ?
Moi, je pense qu'écrire, c'est effacer.
Effacer et revenir.
Ouais, absolument. Il y a des écrivains qui écrivent 3000 pages pour en retenir 300. Il faut écrire le maximum et effacer toujours.
Et recommencer.
Corriger toujours, recommencer toujours. Remettre toujours revenir au travail tout le temps.
Et c'est comme ça depuis Les Crapauds Brousses ?
Oui, tout le temps. À un tel point qu'une fois que mon roman est terminé, je ne le relis pas, j'ai envie de tout réécrire. Je le laisse au lecteur.
Si l'éditeur ne disait pas à un moment donné c'est le moment, vous continueriez à le réécrire.
Absolument, bien sûr. L'éditeur parfois est même encore plus exigeant que l'auteur. Souvent, relisez-moi ça, refaites-moi ça, etc. Bien sûr.
Ouais.
C'est un travail de recommencement.
Infini. Sur le Pont des Arts avec Tierno Monenembo et voici Catherine Fruchon-Toussaint pour l'actualité du Polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Alors l'écrivain dont on parle aujourd'hui, Catherine, est français tous les ans à cette époque de l'année. Il donne rendez-vous à ses très nombreux lecteurs. Il s'agit de Franck Tilliez, dont le nouveau roman vient de paraître sous le titre « À retardement » aux éditions Fleuve.
Un titre énigmatique qui s'ajoute aux nombreux livres, plus de 25 de cet auteur qu'on a découvert en 2004 et qui non seulement n'a cessé d'accroître son public, plus de 11 millions d'exemplaires vendus à ce jour, ce n'est pas rien, mais qui est resté l'écrivain discret, réservé, passionné, qu'il était à ses débuts et qui, de surcroît, là encore, nous surprend avec son nouveau polar qui aborde pour la première fois un pan peu connu de la psychiatrie. Je vous en dis un mot tout à l'heure. Et ce, à travers une enquête criminelle menée par le commandant Charcot. Alors, c'est le héros récurrent de l'œuvre de Franck Tilliez, puisqu'ici, c'est sa 14e affaire. C'est un policier qui, au fil du temps, vieillit. Il a 62 ans aujourd'hui, mais le public l'adore, car les lecteurs et lui ont traversé un grand nombre de drames et de souffrances. Franck Tilliez.
Oui, et c'est une vraie force, je trouve, du personnage. Le lien avec les lecteurs est extrêmement fort, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent me voir, ils me disent « Ah mais Charcot, il commence à vieillir, qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce qu'il va prendre sa retraite ?» Parce que c'est vrai qu'il approche aussi de l'âge de la retraite. Mais c'est vrai qu'on le voit, en fait, on le voit au fur et à mesure des enquêtes. Alors sa motivation, elle est toujours là, mais vieillissant, effectivement, il y a des petites choses qui ne suivent plus. Il ne court plus aussi vite qu'avant, donc il va s'essouffler plus vite, il va se blesser plus vite, il va se faire mal. Et c'est ces petits détails, je trouve, qui le rendent extrêmement extrêmement humain. Moi-même, alors, vous dites, il est beaucoup plus âgé. Alors, moi, j'ai 5 ans. Il a 10 ans de plus que moi. Donc, voilà. C'est... Et moi-même, je le vois un petit peu. Bah, voilà, à la cinquantaine, il y a des petites choses qui fonctionnent moins bien qu'avant. Et donc, je me dis, bon, voilà, on vieillit tous. Et finalement, c'est pour ça que ce personnage, il est très, très proche de moi. Il reste proche au fur et à mesure des années. Parce qu'on se partage ces problèmes-là. Si je l'avais gardé jeune en permanence, ça arrive dans des sagas comme ça, où les héros ont toujours le même âge, je m'en serais peut-être éloigné, en fait. Le lien se serait peut-être rompu. Là, voilà, on a un chemin parallèle, et ce personnage est vraiment très proche de moi depuis 20 ans.
Voilà, donc le commandant Charcot est peut-être un peu moins rapide qu'avant. Catherine, il a vieilli comme son auteur, mais il est toujours au cœur d'enquêtes effrayantes, cette fois aussi, j'imagine.
Oui, avec sa compagne Lucie, qui est également policière, ainsi que Nicolas, l'un de leurs confrères. Le trio va se retrouver sur une scène de crime aussi barbare qu'incompréhensible, avec le cadavre d'un homme tué à coups de tournevis et étouffé par la soude. Je vous épargne les détails.
C'est mieux.
Et parallèlement, on fait la connaissance d'Éléonore, une psychiatre qui, elle, travaille dans une UMD. Franck Tilliez nous dit tout sur cette structure peu connue du grand public.
Oui, une UMD, c'est donc une unité pour malades difficiles. Il y en a 11 en France. Ce sont des structures psychiatriques très particulières, très fermées, avec très peu de lits. Dans l'UMD où je me suis rendu, il y avait 40 lits, donc on peut accueillir 40 patients, et on y accueille les personnes qui sont dans les situations psychiatriques les plus instables, c'est-à-dire les personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes et pour la société, et qui, pour nombre d'entre elles, ont commis des crimes, en fait. Ils sont passés à l'acte, alors sous le coup d'une maladie, c'est-à-dire au moment où la maladie s'exprime, il y a un acte souvent abominable, parce que on regarde les infos, on voit bien ce qu'on appelle les crimes de schizophrène, ils sont souvent vraiment terrifiants. Donc une structure très fermée, très sécurisée, très encadrée, avec, on devine, des traitements très lourds sur ces patients qu'on essaye de stabiliser, de comprendre et aussi de soigner.
Un roman qui plus est tout à fait actuel, Catherine, puisqu'en 2025, la santé mentale a été déclarée grande cause nationale en France.
Oui, et c'est ce que ne savait pas encore d'ailleurs Franck Tilliez, mais c'est vrai qu'il a toujours eu le talent de pressentir les événements. Par exemple, il a publié il y a quelques années un roman intitulé Pandomia. Et ça, c'était bien avant l'arrivée du virus du Covid. Et ici, donc, il s'est plongé dans l'univers des maladies mentales qui peuvent pousser au meurtre des personnes donc atteintes de certaines pathologies, mais dont la gravité est telle qu'elles ne peuvent pas être judiciables. Alors, c'est un sujet tabou qui soit déclenche la colère dans le grand public, soit est même incompris dans notre société. Et c'est ce qu'a constaté l'écrivain.
Il y a une incompréhension, une stigmatisation de la maladie mentale. C'est vraiment l'un des sujets du livre. C'est-à-dire que pour les gens, quand il y a des crimes abominables qui sont commis par des personnes, quelles qu'elles soient, ces personnes sont des monstres. Alors, il y a les gens de toute conscience qui commettent ces crimes, et donc qui doivent être effectivement jugés, qui doivent avoir procès et aller en prison. Et puis il y a les gens qui souffrent de maladies psychiatriques et qui... au moment où la maladie s'exprime, sont incapables d'avoir le libre arbitre et de savoir ce qu'elles font. Et il y a un passage à l'acte, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maladie qui les fait commettre cet acte. Pour les gens, ce sont aussi des monstres. C'est le même genre de monstre, c'est la même catégorie. Sauf qu'en fait, dans le livre, je raconte que la psychiatre le dit avec ses propres mots, ce ne sont pas des monstres, mais je ne peux pas le dire, parce que personne n'est prêt à accepter ce discours-là, de dire que ces gens-là, en fait, ne sont pas des monstres. Il y a un être humain, il y a eu un acte violent, mais entre les deux, il y a une maladie qui s'est glissée. Et les UMD essayent de, justement, moi c'est ce que j'ai découvert, de faire réapparaître l'être humain qui a été effacé par la maladie.
Et le roman nous plonge dans le milieu des unités pour malades difficiles. Catherine, est-ce que pour autant l'écrivain s'est rendu dans l'une de ces unités ?
Je pense même que c'était une condition non négociable pour Franck Tilliez, qui a toujours voulu être au plus près de la réalité. Et en effet, il est allé à plusieurs reprises à la rencontre de ses patients malades. Je lui ai demandé s'il avait eu peur.
Oui, j'ai eu peur parce que j'étais au courant du genre de personnes qu'on pouvait trouver dans l'unité. Mais évidemment, on m'a dit, bon, voilà, tu vas rentrer, ne t'inquiète pas, tu seras encadré. Puis,
Parce que vous étiez face à face, n'est-ce pas ?
Oui, j'étais face à face. Alors après, il y a différents types de patients. Il y a les patients qui sont en crise, qui, eux, sont très difficilement approchables parce qu'ils sont dans leur psychose, leur délire. Il y a les patients plus stabilisés, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui sont sous traitement. et qui savent qu'ils sont malades. Et donc moi, j'ai eu plutôt affaire à rencontrer ce genre de patients qui étaient capables de s'exprimer. Et donc, j'ai donné des ateliers d'écriture, des petits, c'est un petit prétexte, c'est-à-dire de faire des petits exercices littéraires avec des petits groupes de 3 ou 4 personnes, donc il y avait de différents niveaux, on va dire. Et on était assis autour d'une table avec la psychologue, mais le but, c'était vraiment de dialoguer. En fait, derrière tout cela, en fait, c'est pour montrer aux patients qu'on s'occupe encore d'eux, qu'il y a encore du lien avec l'extérieur, qu'il y a encore des gens de l'extérieur qui veulent comprendre et qui savent qu'ils existent. Et moi, ça m'a beaucoup ému, en fait, marqué. Ça m'a assez bouleversé. J'avais une image de violence pure et de folie en rentrant de là, et je suis sorti avec beaucoup de tristesse en disant, finalement, ces gens sont des gens qui souffrent énormément. Et voilà, pour qui les solutions d'avenir sont assez compliquées, quand même.
On l'entend très bien dans la voix de Franck Tilliez, il a énormément d'empathie pour son sujet, il s'est beaucoup documenté, mais à travers ce roman, il réussit vraiment à nous immerger dans la psychologie de ces personnages. Il y a notamment une scène qui vous a beaucoup marqué, Catherine.
Oui, c'est une scène magistrale où la psychiatre essaye de faire comprendre à un policier qui n'est pas du tout sensible à la cause des malades difficiles, de ce que peuvent ressentir les schizophrènes. Et donc elle lui propose de faire une expérience, marcher sur un tapis roulant avec un casque de réalité virtuelle et vivre une situation similaire à ce que ressentent ses patients. Franck Tilliez.
Oui, mon personnage de policier met ce casque, il est dans une ville et il doit suivre des panneaux qui indiquent la plage. On lui dit juste, voilà, tu suis ces panneaux. Et lui dit, de toute façon, moi je sais que j'ai un casque, je sais que tout ça est faux. Et à un moment donné, il va commencer à entendre des voix, c'est-à-dire il y a les bruits de voiture et puis des chuchotements. Une voix féminine qui va dire « t'es moche ». Il va entendre ça, mais ça va le perturber. Il va se dire « mais c'est pas grave, je sais que c'est faux. » Donc, ils n'arriveront pas à m'avoir. Et puis, à un moment donné, il est en train de marcher. Et puis, il voit le trottoir qui est en train de monter, alors que la rue est en train de descendre. Et donc, en fait, la bordure du trottoir grandit, jusqu'à faire 6 ou 7 mètres de haut. Et à un moment donné, le panneau lui dit de traverser. C'est-à-dire qu'il se penche comme ça, il a une espèce de vertige. Et il dit « mais je peux pas traverser, je vais tomber ». Il sait qu'il est sur un tapis roulant, qu'il ne risque rien, mais en fait, son cerveau lui dit que s'il fait ce pas, il va tomber. Et c'est ça la schizophrénie, c'est-à-dire il y a une moitié du cerveau qui sait que tout ça n'existe pas, que tout ça est une pure création, et il y a l'autre moitié qui va se battre contre l'autre moitié pour faire croire que tout ça existe. La dissociation, c'est des mauvais câblages, on peut regarder un avion et puis entendre un bruit de train, par exemple, au décollage. Enfin, c'est des choses qui n'ont rien à voir, et c'est ça leur vie en permanence. Il y a une image, c'est être schizophrène, c'est chaque jour se réveiller dans un monde dont on aurait changé toutes les règles sans nous les dire.
Voilà comment, avec ses outils d'écrivain et de romancier, Franck Tilliez a su capter avec une justesse inouïe un univers qui nous échappe. Alors, sans oublier l'enquête criminelle qui, elle, va prendre un
tour quand même
totalement inattendu.
Vous poser la question.
Donc, l'équipe de Charcot et la psychiatre vont s'unir pour comprendre une série de meurtres inexplicables dont la résolution finale est en fait contenue dans le titre. À retardement. Et vous allez voir, c'est une vraie bombe à laquelle personne ne s'attend, mais je vous garantis d'avoir des frissons jusqu'au bout. Le livre paraît donc aux éditions Fleuve et l'entretien grand format avec l'auteur s'écoute dans le podcast Café Polar.
Au programme de Littérature sans frontières demain, Catherine.
Je vous emmène à la Charité-sur-Loire pour le festival aux quatre coins du mot qui s'est déroulé il y a quelques jours avec pour thème cette année enquête, en un seul mot ou en deux, comme on veut, et qui justement a célébré les 80 ans de la série noire avec un focus sur deux auteurs phares de la collection, d'Achille Hamet et Hervé Prudhon. Vous saurez tout demain dans ce reportage enregistré sur place et diffusé à 13h30, temps universel.
Le rendez-vous est noté. Merci Catherine Fruchon-Toussaint et à la semaine prochaine. Pierre Noumouné-Nembo, je vous regardais suivre avec la plus grande attention les explications de Catherine. Frisson garanti, vous seriez tenté de suivre cette recommandation de lecture ?
J'ai bien envie d'essayer cet auteur, d'autant qu'elle est persuasive. Hein.
C'est évidemment c'est
animatrice d'émission littéraire, c'est son talent, ça.
Le talent de Catherine.
De pousser les lecteurs à lire les livres qu'elle propose. Et j'ai le lire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, effectivement, cherche dans des zones un peu marginal, un peu inhabituel, dans lequel les écrivains ne s'aventurent pas beaucoup,
ouais.
Le domaine de la psychologie. Et c'est très bien, à mon avis, d'essayer justement de concilier la psychologie et la police. C'est incroyable, ça. En fait, que les policiers aillent chercher dans ce qui se joue dans les neurones du cerveau du coupable,
les afin de comprendre criminels.
Exactement ce qui s'y passe.
Ouais. On parlait tout à l'heure de l'écrivain conscience. Là, c'est aussi l'écrivain témoin, en quelque sorte, puisqu'il est allé sur le terrain se documenter, aller chercher de la matière pour se nourrir.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est incroyable parce que là, on va témoigner dans des régions où le témoignage est difficile à faire. Tout est inconstant, tout est difficile à cerner, tout est mouvant parce que la folie, c'est la mouvance de tout. C'est tout bouge dans la tête d'un fou. La réalité est furtive dans la tête d'un fou. La réalité n'est pas tangible, elle est difficile à percevoir. Et ça, c'est pour un écrivain, ça se percevoir. Tout ça, c'est vraiment peut-être ça, peut-être l'art même de la littérature.
Bah, on est content que la lecture de Franck Tillyès vous tente. Tiens, Nomoné Nembo. Vous avez déjà lu des polars ou vous considérez
que... Oui, quand j'étais beaucoup plus jeune, je lisais beaucoup de polars, comme tout le monde, James Hadley, Chaise, etc. etc.
Ouais.
Simenon, j'adore Simenon. Hein, j'adore Simenon. C'est, parce que Simenon, c'est plus que du roman policier, c'est la sociologie. C'est un homme qui enquête sur la société. C'est la société qui est coupable tout le temps chez lui.
C'est pas tant l'intrigue qui nous intéresse que le contexte.
C'est le contexte. C'est comment il voit, comment le crime en fait découle de certains nombres de faits sociaux. C'est incroyable, et puis sa plume est extraordinaire, précise, simple, mais efficace.
Et écrire un polar, vous pourriez, vous ?
Ah, j'ai même commencé un polar, je voulais faire travailler pour que ça devienne un jour une série télévisée, mais je l'ai commencé, je ne l'ai pas poursuivi, peut-être que je le reprendrai un jour.
Oui, mais ceci dit, vous pratiquez le suspense avec brio, notamment dans Saharienne Indigo, vous nous donnez petit à petit les pièces du puzzle. Franck Tillyès fait vieillir son personnage principal en même temps que lui, Tiens, Nomoné Nembo. Vous nous avez dit que vous alliez nous raconter votre enfance dans le prochain roman. C'est votre choix à vous. Il sera prêt quand, ce nouveau roman, ce 14e roman, c'est ça ?
À mon avis, oui. Je pense que je le donnerai d'ici le mois d'octobre.
Très bientôt, donc.
Ah ouais. Donc il pourrait sortir en 2026. Quand, je ne sais pas exactement. Ça dépend du programme de l'éditeur, c'est compliqué.
Vous nous tiendrez au courant,
en tout cas. Oui, je tiendrai au courant.
Avec grand plaisir. Tiens, Nomoné Nembo, merci d'être passé aujourd'hui sur le Pont des Arts. Pierre Plantier était à la réalisation, Damien Roucou pour la programmation. Merci à eux et à vous de nous être fidèles à l'écoute. Pour nous réécouter, RFI.fr ou notre application RFI Pure Radio. Demain sur le Pont des Arts, Michel Gohou. Oui, l'humoriste, scénariste, réalisateur ivoirien Michel Gohou, incontournable sur scène et à l'écran. Il revient au cinéma en France la semaine prochaine avec la sortie du deuxième volet des aventures du gendarme d'Abobo, le retour du gendarme. Michel Gohou et le réalisateur Anton Vassil seront les invités de Marjorie Bertin. Soyez au rendez-vous, 15h10, temps universel. À suivre, Radio Foot avec Annie Gasnier et dans une minute, le journal en français facile sur RFI. À demain.
Votre rendez-vous culturel sur le Pont des Arts, à retrouver du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI et en podcast sur l'application Pure Radio.
C'était sur le Pont des Arts avec la compagnie Corsair et ses vols vers Paris, l'Afrique et l'océan Indien.